Chapitre 18. On venait d'apprendre, en effet, que le chemin de fer de l'Ouest, resté le dernier ouvert à la circulation, était définitivement coupé. Paris était investi. Et si rapide avait été l'investissement que c'était à peine si on y pouvait croire. C'est par bandes que les gens se portaient sur les points culminants, sur les buttes Montmartre et sur les hauteurs du Trocadéro. Des loueurs de télescopes s'y étaient installés et c'était à qui appliquerait son œil à l'oculaire pour interroger l'horizon et y chercher les Prussiens. On ne découvrait rien. Les campagnes lointaines gardaient leur aspect tranquille et riant au rayon d'un tiède soleil d'automne. De sorte que, véritablement, il fallait faire un effort d'imagination pour se pénétrer de la sinistre réalité, pour se persuader que, véritablement, Paris, avec ses 2 millions d'habitants, était comme retranché du monde et séparé du reste de la France par un infranchissable cercle de fer. On devinait le doute et, comme un vague espoir, à l'accent des gens qui, s'abordant au milieu des rues, se disaient « Eh bien, c'est fini, nous ne pouvons plus sortir, les lettres mêmes ne passent plus, nous voilà sans nouvelles. » Mais le lendemain, qui était le 19 septembre, les plus incrédules furent convaincus. Pour la première fois, Paris tressaillit au roulement sourd du canon tournant sur les hauteurs de Châtillon. Le siège de Paris, ce siège sans exemple dans l'histoire, commençait. La vie des Faverolle, pendant ces interminables jours d'angoisses et de souffrances, fut celle de 100 000 autres familles. Incorporé dans le bataillon de son quartier, le caissier du Crédit Mutuel s'en allait 2 ou 3 fois la semaine, de même que tous ses voisins montaient la garde au rempart. Service inutile peut-être, mais que ne croyaient pas-elles ceux qui le faisaient ? Service fort pénible en tout cas pour de pauvres bourgeois accoutumés au bien-être de leur boutique ou de leur bureau. Assurément, il n'y avait rien d'héroïque à piétiner dans la boue, à recevoir la pluie sur le dos, à coucher à terre ou sur de la paille malpropre, à rester en sentinelle par des froids de 10 degrés. Mais on meurt d'une fluxion de poitrine tout aussi sûrement que d'une balle prussienne, et beaucoup en mouraient. Maxence, lui, apparaissait rarement rue Saint-Gilles. Engagé dans un bataillon de francs-tireurs, il faisait le coup de fusil aux avant-postes. Et quant à Madame Faverolle et à Mademoiselle Gilberte, leur journée se passait à se procurer de quoi vivre. Levées avant le jour, par la pluie ou par la neige, elles s'en allaient faire la queue à la porte de la boucherie, où, après des heures d'attente, elles recevaient un mince morceau de viande de cheval. Seules, le soir, au coin de l'âtre où fumaient quelques branches de bois vert, elle sursautait à chacune des détonations lointaines du canon. À chaque coup qui faisait grelotter les vitres, Madame Faverolle se disait que c'était peut-être celui-là qui tuait son fils. Mademoiselle Gilberte, elle, songeait à Marius de Trégard. Les jours maudits de novembre et de décembre étaient arrivés. On ne parlait que de batailles sanglantes autour d'Orléans. Elle se représentait Marius, mortellement blessé, agonisant sur la neige, seul, sans secours, sans un ami pour recueillir sa volonté suprême et son dernier soupir. Un soir, la vision fut si nette et l'impression si vive qu'elle se dressa toute pâle en poussant un grand cri. « Qu'est-ce ? » interrogea Madame Faverolle épouvantée. « Qu'as-tu ? » Plus clairvoyante, l'excellente femme eut facilement obtenu le secret de sa fille, car Mademoiselle Gilberte était hors d'état de rien nier. Elle se contenta d'une explication qui n'en était pas une. Elle n'eut pas un soupçon quand la jeune fille lui répondit, avec un sourire contraint, « Ce n'est rien, chère mère, rien qu'une idée absurde qui m'a traversé l'esprit. » Chose étrange, jamais le caissier du Crédit Mutuel n'avait été pour les siens ce qu'il fut durant ces mois d'épreuve. Pendant les premières semaines de l'investissement, il s'était montré inquiet, agité, nerveux. Il errait dans la maison comme une âme en peine. Il avait des accès d'inconcevable prostration pendant lesquels on voyait des larmes rouler dans ses yeux, puis des crises de colère sans motif. Mais chaque jour qui s'était écoulé avait paru verser le calme dans son âme. Petit à petit, il était devenu pour sa femme si indulgent et si affectueux que la pauvre idiote en était tout attendrie. Il avait pour sa fille des prévenances dont elle ne revenait pas. Souvent, lorsque le temps était beau, il leur offrait le bras et les promenait le long des quais jusqu'au mur d'enceinte, vers un endroit occupé par un bataillon du quartier. Deux fois, il les conduisit à Saint-Ouen, où campaient les francs-tireurs dont Maxence faisait partie. Un autre jour, il voulait absolument les mener visiter l'hôtel de M. de Thaler, dont la surveillance lui avait été confiée. Elles refusèrent, et au lieu de se fâcher comme il n'eût pas manqué de le faire autrefois, il se mit à décrire les splendeurs des appartements, les meubles magnifiques, les tapis et les tentures, les tableaux de maître, les objets d'art, les bronzes, enfin tout ce luxe éblouissant dont les financiers se servent à peu près comme les chasseurs du miroir où viennent se prendre les alouettes. D'affaires, il n'en était plus question. S'il allait le matin jusqu'au comptoir de crédit mutuel, c'était uniquement, disait-il, pour l'acquis de sa conscience. De loin en loin, M. Saint-Pavin et le plus jeune des messieurs Jotras poussaient jusqu'à la rue Saint-Gilles. Ils avaient suspendu l'un les paiements de sa maison de banque, l'autre la publication du pilote financier. Mais ils n'étaient pas inoccupés pour cela, et au plus fort de la détresse publique, ils trouvaient encore le moyen de spéculer, on ne savait sur quoi, et de réaliser des bénéfices. Ils raillaient d'ailleurs agréablement les imbéciles qui prenaient la défense au sérieux et imitaient le plus plaisamment du monde la tournure qu'avaient sous leur capote de soldats trois ou quatre de leurs amis qui s'étaient fait inscrire dans les bataillons de marche. Ils se vantaient de n'endurer aucune privation et de savoir toujours où prendre du beurre frais pour assaisonner les larges tranches de bœuf qu'ils avaient l'art de se procurer. Madame Favoral les entendait rire aux éclats et M. Saint-Pavin, le directeur du pilote financier, s'écriait « Allons, allons, nous serions des sots de nous plaindre. C'est une liquidation générale, sans risques et sans frais. » Même leur gaieté avait quelque chose de révoltant, car on était à la dernière, à la plus aiguë période du siège. Les plus optimistes disaient au début « Si Paris tient 6 semaines, ce sera tout le bout du monde. » Or, il y avait plus de 4 mois que durait l'investissement. La population en était réduite à des aliments sans nom, le pain manquait, les blessés, faute d'un peu de bouillon, mouraient dans les ambulances. C'est par centaines qu'on conduisait au cimetière les enfants et les vieillards. Sur la rive gauche, les obus pleuvaient, le froid était atroce et on n'avait plus de bois. Et cependant, nul ne se plaignait. Du sein de cette ville de 2 millions d'habitants, pas une voix ne s'élevait pour redemander le bien-être, la santé, la vie même, au prix d'une capitulation. Les hommes clairvoyants n'avaient jamais espéré que Paris se débloquerait seul. Mais ils pensaient qu'en tenant ferme et en retenant les Prussiens sous ses forts, Paris donnerait à la France le temps de se reconnaître, de lever des armées et de se ruer sur l'ennemi. Là était le devoir de Paris, et Paris devait le remplir jusqu'aux dernières limites du possible, comptant pour une victoire chaque jour qu'il gagnait. Tant de souffrances, malheureusement, devaient être inutiles. L'heure fatale sonna où, les vivres épuisés, il fallut se rendre. 3 jours durant, les Prussiens campèrent dans les Champs-Élysées, dévorant du regard cette ville, l'objet de leurs ardentes convoitises, ce Paris où, tout victorieux qu'ils étaient, ils n'avaient pas osé s'aventurer. Puis les communications furent rétablies, et un matin, en recevant une lettre de Suisse, « C'est du baron de Thaler !» s'écria M. Favoral. Précisément, le directeur du crédit mutuel était un homme prudent. Agréablement installé en Suisse, il ne s'y déplaisait pas, et avant de rentrer à Paris, il tenait à se bien assurer qu'il n'y courait aucun risque. Sur les assurances que lui donna M. Favoral, il se mit en route, et presque en même temps que lui, reparurent l'aîné des M. Jotras et M. Costeclar.